Retour à Délirium environnemental, première émission de la saison avec ce beau smog, le beau petit halo brun de gris que vous voyez partout. Vous savez, c'est des particules toxiques qui sont coincées au-dessus de la ville de Montréal, mais partout aussi au-dessus du Québec. Et oui, Délirium environnemental, c'est un magazine radio d'information en environnement, mais c'est aussi un site internet où est-ce que vous pouvez aller lire les différentes nouvelles desquelles on vous parle habituellement et voir les liens desquels on vous parle. Donc, vous trouvez tout ça au www.radiodelirium.net. On continue donc notre regard sur l'été 2005 avec Nicolas Milot. Nicolas Milot, une étude qui te fait mal au cœur. On a appris cet été que le fleuve Saint-Laurent ne se porte pas très, très bien.
Pas très, très bien, malgré qu'au tout début de l'été, on se souvient que des Montréalais, des citoyens montréalais, s'étaient baignés dans le fleuve pour illustrer un peu leur volonté de se réapproprier. Je vois-tu être audacieux?
Non,
je peux dire un peu plus haut, puis c'est quand même propre par certains moments. Mais bref, ces gens-là qui ont fait pour se réapproprier un accès à l'eau pour se baigner. L'eau qui est à Montréal, ceux qui sont déjà allés, on sait que quand il pleut pas, c'est quand même une eau de très bonne qualité. C'est notre eau potable. Vous savez qu'à Montréal, le traitement de l'eau pour boire est un des plus banals qu'on a dans une grande ville nord-américaine. C'est de la filtration et un peu de chloration, et bingo, on la boit. Mais ce qui se passe après Montréal, par exemple...
C'est là que ça se gâte.
Vous voyez, dans le golfe du Saint-Laurent cet été, l'Institut Maurice Lamontagne a réalisé une de ses fameuses expéditions de recherche à bord du Coriolis, ce fameux bateau-là qui se promène, dans le fond, et qui fait une série de sondages en profondeur, à des profondeurs diverses.
Il appelle les morues,
il leur demande si ça va. Mais comme il n'y en a plus de morue, ça ne répond plus. Donc, on s'en va par une autre méthodologie qui est celle de l'éco-sondage ou du sondage au niveau des concentrations de certains composés physico-chimiques dans l'eau. Et une donne qui est intéressante, c'est de calculer la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'eau, car l'oxygène permet la vie. Donc, quand il n'y a plus d'oxygène, eh bien, il y a moins de vie ou des fois, il n'y en a plus du tout.
Ce qu'on a découvert, la vie se meurt dans le fleuve Saint-Laurent et à des taux vraiment inquiétants.
À des taux incroyables. On s'était rendu compte en 2003 que dans le coin entre Trois-Pistoles et Rimouski, il y avait une zone qui se dirigeait vers ce qu'on peut appeler une zone morte dans l'eau. Donc, un taux d'oxygène tellement bas que la vie est fortement menacée, voire inexistante. Eh bien, là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette zone-là avait grandi, mais considérablement. Elle s'étend jusqu'à l'île d'Anticosti avec des... on calcule une quantité d'oxygène, c'est des micromoles. Je ne suis pas chimiste ni biologiste, donc je ne m'éterniserai pas là-dessus. Mais pour vous dire, on considère que les taux qui permettent la vie sont aux alentours de 80 de ces micromoles-là. Eh bien, entre Rimouski et Anticosti, on en mesure 65. Et il y a des zones tout près de Trois-Pistoles où est-ce que c'est 32. Donc, ce qui est très, très, très bas, en 1930, on avait environ 127 comme chiffre. Donc, vous voyez une dégradation qui est très rapide. En 70 ans, on a eu une baisse qui nous amène, dans le fond, complètement de l'autre côté de la situation qu'on jugerait critique. Donc, une zone qui est très, très menacée. Il y a même des zones où est-ce qu'on a observé plus du tout de vie, simplement des mollusques morts dans le fond et même plus d'activité microbienne pour décomposer, étant donné que l'activité permise grâce à l'oxygène est pratiquement inexistante.
Je trouve ça d'autant plus inquiétant qu'on sait que depuis à peu près les 10 dernières années, on a quand même fait des efforts considérables pour ramener le Saint-Laurent à un état qui soit décent, potable et que ce ne soit pas seulement une grosse artère toxique qui traverse le Québec. Puis donc, malgré ces beaux efforts-là, des zones mortes dans le fleuve Saint-Laurent, on se souvient peut-être pour les gens qui nous découvrent que c'est un sujet qu'on avait à cœur et qui nous inquiétait beaucoup parce que les zones mortes dans les océans, donc en zone océanique, les zones mortes ne cessent de grandir et c'est grave parce qu'à ces endroits-là, il n'y a tout simplement plus de vie.
Ah, c'est un phénomène qui avait été observé par l'ONU, en fait, le Millennium Ecosystem Assessment, d'une grosse étude, c'est le cas de le dire, avec des milliers de chercheurs qui s'étaient penchés, entre autres, sur la cascade de l'azote, comment l'azote dans l'environnement influence les écosystèmes aquatiques et comment on se retrouve au bout de la ligne avec des zones complètement anoxiques, donc sans oxygène, plus de vie, et puis les principaux bancs de poissons qui traversent ces zones mortes-là se retrouvent carrément à mourir. Et évidemment, si vous voulez de l'information là-dessus, allez voir le GeoYearbook 2003, c'est là qu'on trouve ça. Cliquez Geo Yearbook sur Google, vous allez trouver ça très facilement. Une mine d'informations.
À tenir à l'œil, parce que les conférences du Millennium, si je ne me trompe pas, demain, l'ONU se rencontre pour discuter notamment de la composition de son Conseil de sécurité. C'est une chose, mais également pour réaffirmer justement ces objectifs-là des conférences du Millennium, où est-ce qu'on dit les écosystèmes sont tributaires, la vie des populations sont tributaires des écosystèmes et donc de leur santé, de leur diversité, en espérant que ça trouve écho encore une fois.
Je vous promets, je ne parlerai pas juste de changement climatique cette année, mais peut-être juste rajouter justement dans le cadre de cette réforme-là de l'ONU, qu'encore une fois, les États-Unis en fait ont fortement insisté et veulent absolument que toute référence au changement climatique soit retirée justement de cette réforme-là.
C'était écœurant! On va quand même continuer à parler du fleuve Saint-Laurent parce qu'on sait que les États-Unis, avec leur administration actuelle, ils ont bien de la misère et que c'est pas toujours représentatif de ce que les États-Unis
pensent. Et on sait aussi que le fleuve Saint-Laurent n'est pas complètement détaché de ce que les États-Unis peuvent provoquer comme conséquence. On se rappelle qu'ils partagent les Grands Lacs avec l'Ontario et que tout ça se ramasse dans notre beau fleuve. Des causes à cette... Dans le fond, on a remarqué une baisse d'oxygène, mais il y a des... Ça vient de quelque part. Qu'est-ce qui provoque ça? On dit que présentement, on n'est pas en mesure de dire que c'est le réchauffement climatique qui serait une cause directe de ça, quoique en même temps, une montée de la température de l'eau dans l'Atlantique, on sait que plus une eau est chaude, moins elle peut contenir d'oxygène, eh bien, pourrait mener à une cause, mais ce qui est vraiment préoccupant, c'est la quantité de matière organique que l'on charrie dans notre toilette, donc on considère vraiment le fleuve comme une toilette présentement, là. C'est carrément ça. Et cette matière organique-là qui arrive dans le golfe, mais qui coule tout au long du fleuve, eh bien, doit être décomposée d'une façon ou d'une autre. Et la décomposition de matière organique, elle, demande beaucoup d'oxygène. Et c'est là que on voit que tout est dans tout, parce que on en envoie de la matière organique. Et on vous rappelle que tout prochainement, c'est le moratoire sur l'industrie porcine qui se relève. Donc on
quel
peut...
non-sens.
Quel non-sens. Et là, on a un lien direct. Bon, peut-être que le monde agricole, le golfe du Saint-Laurent, c'est quoi le lien? Mais
c'est loin.
C'est loin, mais c'est directement là. Plus de porcs dans les régions du Bas-Saint-Laurent, pas du Bas-Saint-Laurent, pardon, mais des Basses-Terres du Saint-Laurent, c'est beaucoup plus de matière organique qui se rajoute aux engrais agricoles qui sont déjà utilisés, à ce qui existe déjà comme lisier qui se rend, qui n'est pas absorbé par le sol, mais qui se rend dans le fleuve et qui ultimement se rend dans le golfe, doit être décomposé. On sait qu'il y a des zones aussi plus en amont dans le fleuve, entre autres le lac Saint-Pierre, la baie de la rivière Saint-François est complètement dégueulasse. La baie Missisquoi dans le lac Champlain qui elle aussi reçoit une quantité de matière organique de la Montérégie qui est très, très, très impactée par ce phénomène-là. Les algues bleues, on ne peut plus se baigner dans ces coins-là, c'est tout simplement un suicide que d'aller là.
Il faut savoir aussi que donc les brocheries, c'est à cause notamment du phosphate?
Phosphore, oui. Phosphore, beaucoup d'azote. C'est pas que ça cause, mais ça l'émet, entre autres. Puis c'est là que le problème de l'eutrophisation des lacs vient.
Autre chose aussi, c'est la perte des milieux humides, justement, parce que les marécages qui bordaient le fleuve Saint-Laurent servaient de filtre et ne sont plus là ou de moins en moins là. Donc, on n'a plus non plus ces zones tampons-là pour protéger l'écosystème du fleuve Saint-Laurent. Donc, là, c'est vraiment le... À part le tout et ton tout avec ta porcherie, fait que là, tu m'as dit que la porcherie puis le fleuve Saint-Laurent, mais est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui viennent affecter tout ça?
Ah ben regardez, si on prend le fleuve Saint-Laurent et son eutrophisation comme ultime maillon d'une chaîne, mais on peut rajouter des chaînons partout, la protection des bandes riveraines, la protection des milieux humides que notre ministre de l'Environnement veut faire une de ses priorités, directement reliées. On le sait, c'est une éponge ces milieux humides-là qui permet de garder un peu plus longtemps ces matières organiques-là, dans le fond, hors de l'eau, dans un milieu qui est filtrant. La voie maritime du Saint-Laurent, continuer à permettre à des bateaux de plus en plus gros de passer sur cette voie de navigation-là, c'est favoriser une érosion des berges qui est davantage rapide, c'est encore envoyer plus de sédiments dans un fleuve qui est déjà sursaturé. La vie en ville, les déjets, l'usine d'épuration d'eau de Montréal qui fonctionne à moitié, ça en est un autre cas. Donc, tout est dans tout.
Bien, qu'on se le dit, tout est dans tout et on suivra tous ces dossiers-là pour vous tout au cours de l'année. On s'arrête quelques instants. Au retour, on fait en rafale ces différentes nouvelles qui ont accroché notre regard et notre intérêt pendant l'été 2005. We'll be right back. De retour à Délirium environnemental, on se fait l'été 2005 en rafale. Alors donc en rafale, d'abord avant de commencer les rafales, mise au point, le fleuve Saint-Laurent n'est pas une poubelle, c'est un lieu d'une richesse écologique exceptionnelle. Si vous allez vous promener notamment dans le bas du fleuve, vous allez voir des choses incroyables telles des étoiles de mer ou des baleines, mais que sais-je encore, surtout si vous allez faire de la plongée, allez-y donc pendant qu'il reste un peu d'eau et un peu de vie dans ce beau fleuve-là, mais surtout assurez-vous de protéger ce joyau.
Je m'excuse d'avoir dit poubelle, mais c'est pas ce que je pense.
On pense à tout le monde de Expo Nature dans le coin de Tadoussac, alors bonjour. Et donc en rafale, messieurs, plusieurs nouvelles ont accroché votre attention. Peut-être commencer, on va sauter du coq à l'âne. Il y a une nouvelle qui t'a beaucoup choqué, Nicolas Mainville. D'après toi, tu viens de mettre le doigt sur le DDT des années 2030. Il s'agit de l'aspartame. Messieurs, dames, soyez inquiets.
Oui, écoutez ça, parce que ça va être le boycott de la semaine, mesdames et messieurs. L'aspartame, vous savez, cet additif chimique qu'on rend, qu'on met dans les différents produits qu'on consomme.
La
gomme, tout pour rendre sucré les choses qui ne le sont pas. Eh bien, la revue The Ecologist au mois d'août a fait une analyse assez poussée de cet aspartame et nous déclare que l'aspartame est en fait l'additif chimique le plus controversé de l'histoire de l'alimentation. Vous savez que jadis, naguère, l'aspartame était considéré par le Pentagone comme un produit chimique potentiellement dangereux pour une guerre chimique et puis que maintenant cet additif se retrouve partout dans le réseau d'alimentation. On parle de millions de personnes exposées à chaque jour.
Et dans le genre de trouble que ça peut causer?
Un trouble assez long comme liste, en fait. Vous savez que l'aspartame va provoquer plusieurs effets, en fait, mimer plusieurs maladies, entre autres le Parkinson, l'Alzheimer, les fibromalignes, l'arthrite, la sensibilité multiple. On parle aussi du syndrome de fatigue chronique. On parle de panique. On parle de lèpre même.
Arrête, je me sens pas bien.
Ce produit chimique, tout ça pour dire que ça a pris 10 ans avant de le mettre sur le marché. La FDA, la Food and Drug Administration, n'a jamais voulu le mettre et a finalement cédé sous la pression des gouvernements et des multinationales, évidemment. Et en ce moment, on est exposé à ce produit chimique toxique. Je vous procure donc cette information. The Ecologist du 5 août 2005. Allez voir ça, c'est en ligne et l'information est là.
Eh bien, à tous ceux qui veulent retourner au sucre blanc, je vous invite à taper Google sucre et maladie malaise parce que le sucre blanc raffiné ne doit pas être beaucoup, beaucoup mieux que l'aspartame. Mais au-delà de cela, moi j'en ai toute une nouvelle pour vous. Eh bien, voici, vous l'attendez vraiment, la nouvelle de l'été. Les jeunes libéraux l'ont fait, la première page. Eh bien oui, ils ont parlé de G-String, les jeunes libéraux, hein, messieurs. Mais ce n'est pas ce qui m'a intéressé. C'est l'autre proposition qu'on n'a pas entendu parler parce que les G-String ont tout pris la place. Eh bien, on parle de nationalisation de l'eau que les jeunes libéraux ont proposé. Et moi, ça me fait plaisir de reparler de ce genre de proposition qui tombe dans l'oubli ou plutôt qui est caché par un G-String. Et c'est triste, on s'en souvient.
Et c'est triste. Donc, les jeunes libéraux, malgré tous leurs défauts, sont peut-être pour la nationalisation un dossier à garder à l'œil tout au cours des années qui vont venir. Vous savez, l'eau, c'est l'or bleu et mieux vaut mettre la main collectivement dessus parce que sinon, les intérêts privés vont s'en charger.
C'est déjà fait.
Il faut faire attention, hein. Nationaliser, ça peut tomber dans le risque aussi. Souvent, plus facile à gérer.
Je vais faire une tête peut-être sur ces dossiers-là. Le groupe du Québec Au Secours fait un travail fabuleux. D'ailleurs, ils font une revue de presse sur les questions de l'eau. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Au-secours.org, si ma mémoire est bonne, mais ça sera sur notre site à nous au www.radiodelirium.net. En bref, Nicolas?
Eh bien oui, une nouvelle qui a souvent fait sourire ou pleurer plusieurs écologistes. La prestigieuse revue Nature qui consacrait un article à ce groupe d'écologistes états-uniens, et on les met même des visionnaires, qui souhaitent réinsérer des lions, des gazelles, des girafes, des hippopotames et des éléphants dans les prairies nord-américaines, donc de la Saskatchewan au Texas, et tout ça pour recréer la vie qu'il y avait il y a 1,8 million d'années en Amérique du Nord. Moi, je vous rappellerai qu'on a complètement exterminé les bisons d'Amérique ou tout près, alors tant qu'à repeupler, on peut au moins repeupler et réparer nos gaffes en même temps, peut-être.
Bonne idée!
Vous savez, mesdames, messieurs, là aussi des OGM, c'est toujours plus désastreux quand on apprend qu'on est capable de faire migrer des gènes d'une plante modifiée génétiquement à une autre plante
n'a carrément aucun rapport avec cette plante-là.
Et ce qui nous prouve qu'on ne comprend absolument rien dans ce dossier-là, Boutillard.
Et voilà, cet été, en juillet, c'est le Guardian qui nous a fait un topo là-dessus. Et vous savez que le gouvernement britannique étudie des plantations d'OGM depuis quelques années et ont observé la migration du gène de résistance à un herbicide vers une autre plante qui est complètement déconnectée. En fait, on parle des plants de colza transgénique qui ont transféré un gène à un plant de moutarde, le gène de résistance à l'herbicide. Et puis, on se retrouve maintenant avec des plants de moutarde qui résistent à cet herbicide-là et qui pullulent dans les champs. Donc, une grosse découverte dans le dossier des OGM, puisque c'est la principale crainte des différents pays qui mettent encore des moratoires sur l'utilisation des OGM. Et c'est exactement l'argument que les écologistes utilisent pour ne pas utiliser les OGM partout sur la planète parce que ça transfère des gènes et c'est un risque.
Et ça, ce n'est pas tout. Dans les autres risques qu'on ne connaît pas, mais que semble-t-il, certaines compagnies productrices d'OGM connaissent. Le saviez-vous, en juin, donc de cet été, le 23 juin, une étude paraissait. En fait, c'est ça, des résultats qui avaient été tenus secrets par Monsanto à cause d'une loi sur l'accès à l'information en Allemagne. Des groupes écologistes ont eu accès à ces résultats-là. Tenez-vous bien, un maïs de type génétiquement modifié, grosse surprise, est homologué ici depuis 2 ans. Selon les études de Monsanto, quand on nourrit pendant 90 jours des rats avec ce produit-là, le MON 863 pour être plus précise, ça crée une augmentation importante du taux de globules blancs qui sont à l'origine souvent d'infections ou d'inflammations. Ça cause également des infections au foie et aux reins et des troubles du poids chez les rats. Inquiétons-nous. Oui, imagines-tu, eux autres sont capables de résister à toutes sortes de toxines, mais ils ne résistent pas plus que ça. Pendant ce temps, au Québec, on continue à palabrer sur la question de l'étiquetage, mais ce n'est pas fait.
Ben, ce n'est pas fait. En effet, l'étiquetage obligatoire, on nous l'annonce peut-être au Québec, quelques bribes, quelques petites lignes cet été dans les journaux. Eh bien, si monsieur le gouvernement, appelons-le monsieur, je sais pas, ça peut être une madame, en fait, hein, mais toujours est-il que présentement, c'est un monsieur qui est au pouvoir, et étiquetage obligatoire, vous allez voir Greenpeace cet automne qui vont ressortir à nouveau, parce que là, ça branle dans le manche. On est tanné, monsieur le gouvernement.
Mais c'est
oui,
une
peut-être.
Promesse électorale.
Exactement. Donc, il risque de le faire et avoir un gros dossier à suivre parce qu'on ne sait pas si ça va être un étiquetage en fait superficiel ou si ça va être quelque chose de sérieux. Parce qu'au fédéral, ils nous ont mis quelque chose de volontaire. Félicitations, il n'y a rien d'étiqueté.
Juste pour compléter le dossier des OGM, vous savez que le Roundup est l'herbicide le plus utilisé sur la planète. Roundup provoqué et créé par Monsanto elle-même. Eh bien, on a fait des études cet été et puis les résultats puisent. Eh bien, apparemment, on a tué 98% des grenouilles exposées au Roundup à des concentrations plus faibles que les règles demandées par la EPA, la Environmental Protection Agency des États-Unis. Eh bien, le Roundup serait encore plus toxique que l'atrazine. L'atrazine, vous savez, qui a été pointée du doigt depuis des dizaines d'années à cause des mutations qu'il provoque chez les batraciens, en fait, chez les grenouilles, les rainettes et tout ça. Alors, on se retrouve avec un problème similaire causé par le Roundup. Non pas par le Roundup, l'herbicide, mais bien le Roundup, l'agent chimique qui est utilisé pour faire pénétrer l'herbicide dans les plantes, et c'est là le gros problème. Alors, un gros blanc, encore une fois.
Un gros dossier qu'on devrait garder à l'œil ici. On pourrait même faire un dossier de fond sur cette question des OGM, parce que s'il y a un dossier duquel on ne parle pas beaucoup et que ça tombe vite dans les bribes de l'actualité, c'est bien celui de l'empoisonnement massif des populations mondiales. Oups, excusez-moi, je m'emporte. On s'arrête ici sur les rafales, au retour, coup de cœur, coup de masse, et surtout au calendrier. We'll be right back. de retour à Delirium Environnemental, dernière partie d'émission. Et oui, dans le nouveau format, ça ne dure qu'une heure. Donc, on est déjà rendu à cette partie qu'on aime tant, les coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine.
Eh bien, moi, je vous amène du côté de la Chine. Vous savez, on a très peur de ce monstre qui va rouler sur l'économie internationale et qui va polluer la planète en entier. Mais il n'y a pas juste du mauvais en Chine. Il y a aussi des paysans chinois qui tiennent leur bout.
Oui.
Il y a, dans le fond, 15 000 personnes qui sont rentrées de force dans une industrie au début juillet, forçant cette industrie pharmaceutique qui s'appelle Jingxin, de la circonscription de Xinjiang dans la province orientale du Zhejiang. Et bien, bref, cette magnifique pharmaceutique chinoise, eh bien, a été forcée de fermer face à la pression populaire. 15 000 personnes qui sont
rentrées. 15 000 personnes qui avaient peur de se faire empoisonner par cette compagnie-là, donc qui sont rentrées, tout le monde dans la compagnie, on va mettre du trouble. Coup de cœur au calendrier ou coup de masse.
Oui, vas-y, allez, on
entend. Encore une fois, coup de cœur populaire. En fait, oui, hey, on a de l'éolien au Québec maintenant. 2000 MW qui ont été annoncés cet été.
Tu vas pas donner un coup de cœur à Hydro-Québec, Patrick Bonnet?
Ben, écoute, moi, je donne un coup de cœur au gouvernement qui les a commandés parce qu'il aurait pu ne pas les commander. C'est un début. Félicitations. Vous avez même mis de côté les autres projets de cogénération et de centrales au gaz naturel. Évidemment, c'est parce que c'était pas rentable économiquement. Il reste plus qu'à faire de même avec le nucléaire, mais pensez pas qu'on va laisser passer la Magpie avec un barrage comme ça sur la Magpie, une des 10 meilleures rivières au monde pour le rafting, puis on met du béton pour empêcher ça.
Coup de masse, Nicolas,
c'est peut-être un coup de masse, cette
Magpie. Ce barrage, là, ben, il est trop tard.
Ils ont décidé d'aller faire
la construction a commencé cette semaine.
La construction est retardée à cause que les discussions avec les Inuits, à cause de la Kruger, met en sorte une espèce de voile sur la situation côte-nordière. Donc, on a encore un petit peu de temps devant nous.
Eh bien, mesdames et messieurs qui êtes dans vos automobiles, j'envoie un coup de cœur à l'ATSA, l'Action Terroriste Socialement Acceptable, qui vous a fait paître tout l'été avec ses fausses contraventions. Et oui, vous avez peut-être vu ça passer, des contraventions vous disant que votre véhicule est trop gros, ou que votre véhicule tourne pour rien, ou qu'il est carrément démesuré. Cette ATSA a carrément fait flipper certains automobilistes qui se sont adressés même au Journal de Montréal. Le Journal de Montréal qui a fait un article full page disant que ce ne sont pas des vraies contraventions. Alors, on est maintenant forcé de mettre 0$ sur ces contraventions puisque le chiffre initial était entre autres de 50$ pour avoir un gros SUV qui pollue.
Alors, j'aime mon chapeau, sûrement.
C'est une belle façon de faire réfléchir les gens.
Donc, c'était un coup de cœur pour l'ATSA, une petite organisation à découvrir, c'est sûr. Moi, j'y vais d'une activité au calendrier, vous savez, du 12 septembre. Donc, depuis hier, du 12 au 22 septembre, vous êtes conviés à participer à des soirées débat de haut niveau, semble-t-il. C'est donc la série des forums sur le développement urbain durable, viable, j'aimerais ajouter après le mot durable. Donc, je vous en parlais un peu plus tôt, c'est pour que prenne bien action le plan de développement durable de la ville de Montréal. Et donc, tous les citoyens sont invités à participer et à aller faire leurs doléances, leurs recommandations. C'est ma petite activité au calendrier. Pour plus d'informations, vous pouvez directement aller sur notre site web à nous qui est www.radioderrière.net. Je m'excuse. Coup de cœur, coup de masse ou une présentation, Étienne Côté-Paluc, notre webmestre adoré depuis tellement longtemps.
Oui, bonsoir tout le monde. En fait, pour commencer, un petit coup de masse vite vite au gouvernement du Québec concernant les éoliennes. Il est temps qu'on parle de ça parce qu'il n'y a personne qui en parle. C'est tout privatisé. C'est des gens qui commencent à faire ça, donc qui mettent le cash que ça va te provoquer dans leur poche. Il est temps à penser à avoir une redevance ou quelque chose par rapport à tout ça.
C'est pour la semaine prochaine.
C'est une petite brève pour, en fait, envoyer un petit coup d'encouragement.
Ah?
On peut faire ça?
Oui, d'encouragement.
En fait, pour dire aux gens de commencer à aller vers les matières premières pour tout ce qui entoure leur vie. Donc, ça peut être autant en alimentation, en produits ménagers, on pourra en reparler. Et donc, vraiment, tout ce qui entoure leur vie, vraiment la solution idéale pour respecter l'environnement, respecter ses enfants et toutes les générations futures, c'est ça. Aussi, un petit coup de cœur et un bravo à notre chère animatrice qui commence à devenir une vedette médiatique de l'environnement. Donc, qui est une belle participation à Marie-France Bazot la semaine dernière, donc un petit coup de cœur là-dessus. Et aussi en terminant, je cède la place à la mise en onde à Myriam Asselin. Je voulais lui souhaiter aussi une bonne saison et un bienvenue dans l'équipe.
Merci d'être là.
Bonne chance, ça n'est pas facile.
Merci Étienne qui continuera quand même à assurer la beauté de notre site internet que je le répète encore, vous pouvez trouver au www.radiodelrium.net. Dernier coup de cœur, coup de masse au calendrier.
On peut commencer tout de suite à annoncer la journée en ville sans ma voiture qui aura lieu le 22 septembre prochain. Et bon, je veux pas
forcer les choses, mais étant donné qu'on a des journées de sport à n'en plus finir cet été, ce serait peut-être le fun d'en avoir une cette journée-là pour que ceux qui vont prendre le vélo une fois par année se rendent compte de ce que nous, qui les prenons, moi, ce que je parle parce que moi, je le prends tous les jours, ce qu'on vit. Une journée comme aujourd'hui, c'était tout simplement désastreux pour nous.
Ah, ton char.
Alors, j'aurais pu, mais bon. Alors, participez en grand nombre cette journée-là qui arrive pas assez souvent par année. Prenez votre vélo, transport en commun, allez-y les gars.
D'ailleurs, petite activité au calendrier, le colloque qui va se tenir 29 et 30 septembre 2005, c'est le droit des citoyens à un environnement propre, une comparaison entre les États-Unis, le Canada et le Québec. L'Union européenne et le Canada, c'est quelque chose qui risque d'être intéressant. Ça va se tenir à l'Université de Montréal et c'est un colloque qui est gratuit. Je vous invite à y participer. On va parler entre autres justement des obligations de déclaration de prolifération des produits toxiques dans l'environnement.
C'est aussi à suivre cette automne, évidemment, la COP11, la conférence des parties des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient à Montréal. Vous allez en entendre parler. C'est le dossier chaud de l'automne. Évidemment, nous allons couvrir l'événement pour vous.
Vraiment?
Je vous invite à écouter Méchant Contraste à Télé-Québec. On parle de quel avenir pour l'automobile au Québec. Source de 38% des émissions de gaz à effet de serre, les transports au Québec. Donc, quel avenir pour ça au Québec? Méchant Contraste, Télé-Québec. On va faire des pubs, hein? On fait un partenariat dans pas long.
C'est vrai, c'est pas fou ça, franchement. Hey, c'est déjà la fin de Délirium environnemental, première de l'année. On vous jure que la semaine prochaine, on va être juste une petite affaire plus organisée, juste dans le sens où est-ce qu'on va vous parler de nouvelles que vous pourrez aller chercher vite sur notre site Internet. On va parler une petite affaire moins vite. On va être plus tranquille. Je vous rappelle que Délirium environnemental, c'est d'abord et avant tout une équipe magique qui était en studio complète avec moi, Nicolas Mainville, Patrick Bonin, Nicolas Milo à la régie mise en onde, Myriam pour une première fois à Asselin. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Étienne Côté-Paluc, comme toujours, merci. Moi, c'était Sophia Legendre et je vous rappelle que sur notre site internet qui est encore une fois au www.radiodelirium.net, vous pouvez lire des nouvelles, voir des liens environnementaux et aussi nous contacter pour nous faire des suggestions, recommandations, compliments, critiques, ce que vous voudrez, ça nous fera plaisir de vous lire. Bonne semaine tout le monde, soyez verts!